102.1.
100% parlé tout l'été.
On dirait qu'ils ont ajusté les bêtes musicaux pour nous, Mathias. Hey, salut, je m'appelle Pascal, Pascal CV Mathias, Mathias Turcotte. On est avec vous jusqu'à, j'allais dire 14h. Ben non, on a changé l'horaire aujourd'hui. Donc, on entre en onde de 10 à midi. Ensuite, Jeff Fortin est de retour. Vous l'avez entendu aussi dans l'émission du matin. Puis toute la gang du retour aussi est officiellement dans les rangs. Donc, Denis, Véro et Audrey. Et Audrey, on la recevra à 11h avec l'open mic. C'est Paul Lévesque aujourd'hui, spécialiste du comportement humain qui sera avec nous pendant la demi-heure. On a bien hâte d'y jaser, c'est toujours le fun, puis le sujet va vous faire réagir, manquez pas Paul Lévesque tantôt à l'émission dans le point de Max. Max qui, lui, est en congé pour mieux vous revenir. À l'extérieur, c'est 21 degrés, alternant soleil et nuages pour la journée, c'est vraiment ce qu'on a. Orage violent pour cet après-midi. Ce soir et cette nuit, la nuit est fraîche, on a 14 pour laisser place au soleil avec 25 dès demain mardi. Et on n'ose pas trop se prononcer ces temps-ci parce que là, je vois trois belles journées, là, vraiment du soleil mur à mur de mardi à jeudi, mais ça change aux 24 heures ou aux 12 heures la météo. Donc, c'est loin d'être facile de vous en faire une précise, mais aujourd'hui, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a une nouvelle qui allie côté voyeur au côté droit et actualité aujourd'hui qui a attiré notre attention. Moi, ça me fait penser à l'ancien cas Éric et Lola. Il y a des similitudes, mais il y a des choses bien différentes aussi, où on n'a pas les noms de ces gens-là. Fait que ça, c'est un petit peu le côté voyeur, puis on les divulguera pas non plus. Des fois, il y a des indices dans la cause qui nous permettent d'avoir des hypothèses, là. Mais c'est un divorce entre millionnaires. Donc, c'est la presse aujourd'hui qui parle de ce divorce-là. C'est un juge qui a refusé d'accorder 220 millions de dollars à l'ex-épouse d'un richissime. Une guerre qu'on nomme comme étant sans merci depuis un bon bout déjà. Puis, on pouvait pas en parler sans une experte et on l'a ici. Elle collabore à l'émission une fois de temps en temps. C'est Gabrielle Martineau, Desautel, avocate en droit de la famille et en droit de la jeunesse, qui est avec nous. Bonjour, Maître Desautel.
Bonjour.
Bon, en même temps, j'aurais dû dire Maître Martineau Desautel pour pas fâcher tes parents. Déjà qu'on parle de guerre judiciaire puis de divorce avec ce cas-là. C'est un cas quand même qui attire l'attention.
Définitivement, là, c'est pas un cas qu'on voit à tous les jours, là.
On est-tu obligé de tomber dans le côté voyeur ou on peut le trouver intéressant aussi pour les millions de dollars qui sont mis sur la table, le fait que c'est une guerre qui est sans merci, et aussi qu'on peut le rapporter, le ramener à notre quotidien, à nous, si jamais on a à se divorcer, là?
Bien, c'est sûr qu'il y a certains éléments qu'on voit dans tous les dossiers, là, des réclamations. Là, c'est sûr que dans ce cas-là, on parle de millions de dollars.
Tu vois moins ça un peu.
C'est pas tous les jours qu'on voit ça, puis c'est pas tous les dossiers qui sont comme ça, là, mais toutes les questions d'ordre, garde d'enfants, pension alimentaire, on a parlé de prestations compensatoires aussi dans ce dossier-là, parce que puis d'enrichissement injustifié. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'on voit dans beaucoup de dossiers, là, à tous les jours.
Que vous jouez là-dedans les deux mains, là, au quotidien. Éric et Lola, auparavant, c'était des gens qui n'étaient pas mariés.
Exact.
Là, on comprend qu'ils ont été mariés pour une partie de leur relation. Fait qu'à ce moment-là, on va pas jouer là-dedans. Eux, ils jouent encore une fois dans tout ce qui était fait avant le mariage, donc dans la portion conjointe fait. Est-ce qu'on comprend qu'en 2026, c'est toujours pas légiférer la façon dont on doit s'y prendre quand un couple éclate avec des enfants et ou avec un style de vie entre conjoints de fait?
Bien, en fait, c'est légiféré. Il y a des recours qui existent. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes que pour les conjoints mariés. Dans le cas de Mona et Cédric, ce qui est bien, particulier...
Les non-fictifs.
Les non-fictifs, exactement. C'est qu'ils ont été mariés pour une courte durée, puis ils ont été conjoints de fait au préalable. Donc, il y a certaines réclamations que Mona fait qui touchent directement là, la portion avant le mariage. Quand on parle d'enrichissement injustifié, là, quand tu parlais tout à l'heure là, de sa réclamation de 220 millions, là, ça touche la portion avant mariage.
Donc, on dit que c'est bon, pas quelque chose qui devrait se voir dans la cause. C'est pour ça que le juge a refusé d'accorder ces 220 millions de dollars-là à l'ex-épouse. Qu'est-ce qu'elle demandait, elle, de garder un certain style de vie?
Bien, en fait, sa réclamation de 220 millions, on appelle ça une demande en enrichissement injustifié. C'est pour venir compenser l'apport exceptionnel qu'elle a fait pendant la vie commune. Elle réclamait ça par rapport aux enfants, par rapport aux résidences, puis par rapport aux compagnies aussi de monsieur. Le juge ne lui a pas rien donné. C'est juste qu'il lui a donné un montant beaucoup moins moins élevé que ce qu'elle réclamait. Là, lui a donné 650 000 au final. Là. Puis on voit dans l'article qu'il ventile ça pour différents éléments. Là.
Oui, on le constate absolument. Là, puis je pense que Mathias, tu avais une
ouais,
ça. C'est
oui,
toi
ben,
qu'on a entendu, oui.
C'est, que le juge finit par décider au final de dire « Ah, t'as pas droit à 220 millions, ça va seulement être... Si... » Puis là, je le mets entre guillemets, 650 000 $ finalement. Comment on évalue ça dans le processus?
Bien, en fait, on le voit un petit peu dans l'article, là, on l'aborde. Le juge a parlé de co-entreprise familiale. Mm-hmm. Madame, elle, réclamait un montant de 220 000 en disant « Bien, nous, on était dans une co-entreprise familiale. » Ça, c'est un terme qui, au final, vient dire « Bien, c'est une méthode d'indemnisation. Il y a la co-entreprise familiale puis une autre méthode. » Donc, en co-entreprise familiale, souvent, les parties vont avoir droit un petit peu plus que dans l'autre méthode de calcul. Le juge vient dire « Moi, je ne vois pas que de co-entreprise familiale. » Donc, il va vraiment là, avec la première méthode de calcul qui est très arbitraire. Donc, le juge dit « Pour les enfants, je t'accorde 300 000. » Je me souviens plus des chiffres exacts. Là.
C'est 350 000 pour son rôle de prépondérant auprès des enfants et des résidences pour la dame, là, pour l'épouse mm-hmm. en question. Puis 300 000 pour ses services rendus à l'entreprise de Cédric.
C'est ça, exactement.
Donc, on dit que Mona, qui a assumé seule la charge mentale associée aux enfants et aux responsabilités domestiques pendant que Cédric était loin du foyer, ça joue beaucoup dans la cause. Est-ce que tu vois ça de plus en plus? Des femmes, par exemple, pour prendre le côté genré, qui ont assumé bon, toute la charge mentale puis qui réclament lorsque vient le temps de se divorcer ou de se séparer. En même temps, comment est-ce qu'on le calibre, ça, cette charge mentale-là?
Bien, c'est sûr qu'il faut que ce soit une contribution exceptionnelle. C'est comme ça que les juges le décrivent, si on veut. Il faut que ce soit une contribution qui est plus que ce que tu devrais faire normalement.
Genre quelqu'un qui est à l'extérieur constamment dans le couple, quelqu'un qui n'a pas nécessairement toute la garde, quelqu'un qui... Ça fonctionne-tu comme ça? Comment est-ce qu'on considère que c'est une exception?
Ben, en fait, par exemple, un parent qui va s'occuper de tous les rendez-vous médicaux des enfants, de tous les rendez-vous scolaires des enfants, qui va préparer les repas, qui va s'occuper de tout ce qui est gestion de la maisonnée, faire le lavage.
Il faut toujours bien prouver ça.
Oui, il faut toujours... Exactement. C'est une preuve qui est quand même pas facile à faire nécessairement, qui repose beaucoup sur des faits. Donc, le juge va regarder la version d'un contre la version de l'autre puis va venir déterminer qui y croit le plus. Là.
Toi, quand tu gères ce type de cause-là en tant qu'avocate en droit de la famille puis en droit de la jeunesse, bon, on parlait des sommes qui sont faramineuses dans l'article, mais où est-ce que ça bug le plus? Où est-ce que le bas blesse quand vient le temps de déterminer les sommes là, à chacun?
Bien, en fait, dans un dossier d'enrichissement injustifié comme ça, il faut vraiment regarder c'est quoi les deux éléments, les principaux éléments à regarder, c'est l'enrichissement de un versus l'appauvrissement de l'autre. Puis c'est un peu comme ça que le juge, on va venir à déterminer c'est quoi le montant auquel là, la personne va avoir droit. Là.
Mais souvent, ça vient dans l'actualité, puis on ne voyait pas ça auparavant. Comment est-ce que le paradigme a changé avec le temps?
Je pense que, puis là, je n'ai pas nécessairement la réponse, mais mon avis, c'est justement avec le fait que les femmes travaillent plus maintenant versus, disons, nos grands-parents. On s'occupe plus des enfants, on est plus à la maison, tout ça, les congés de maternité, etc. Donc, il faut essayer de trouver une certaine compensation pour tout le travail que la femme, puis là, encore une fois, pour venir genrer le dossier. Là. Donc, c'est pour venir compenser un peu là, le travail exceptionnel qu'un parent va faire là, dans le cadre de la famille.
Dans certaines situations, des gens qui, au 88-971-1021, se sont confiés quand on arrivait à parler avec l'actualité comme ça, puis c'était pour plusieurs des pères qui avaient été en cours ou qui avaient été jugés sur le fait de devoir contribuer à la famille, même après la séparation, pour garder un certain contexte de vie, là, style de vie, façon justement de vivre pour les enfants. Donc, il avait donné des montants à la mère qui étaient surévalués pour certains qui se confiaient à certains moments et qu'eux avaient de la misère à arriver au bout du compte, au bout du mois, avec les sommes qu'ils avaient à donner à leur ex-conjointe, encore là, on genre. Est-ce que tu as vu ça souvent?
Bien, quand je dirais oui, là, c'est sûr que c'est... on parle de pension alimentaire pour les enfants. C'est sûr que c'est déterminé. Là, les tables sont faites par le gouvernement à chaque année. Tout ça, c'est déterminé en fonction du revenu des parents, des modalités de garde et tout, mais c'est certain qu'on le voit que c'est quand même des montants qui sont élevés. Puis, effectivement, là, ça peut arriver qu'il y en a qui ont de la difficulté à arriver financièrement là, au bout du mois parce qu'ils doivent payer une pension alimentaire.
Est-ce qu'on a retravaillé là-dessus à travers le temps? Est-ce qu'on devrait retravailler là-dessus à travers le temps?
En fait, pour les enfants, moi, je dirais que non. Parce que c'est vraiment fait pour le bénéfice des enfants. Il faut comprendre que cet argent-là ne va pas aux parents, mais bien pour les besoins des enfants. Puis c'est pour leur permettre de garder un certain rythme de vie qui n'est pas être pénalisé du fait que les parents sont séparés.
Pour voir la même chose quand on va chez maman ou qu'on va chez papa.
Exact.
Si vous avez des questionnements ou encore vous avez des histoires à nous raconter par rapport à ça, 418-971-1021. On termine avec vous, Maître Martineau des Hôtels, sur le grand dossier qui est dans la presse aujourd'hui. Là, on a vu que ça sort un peu dans les médias. On est en ordonnance de non-publication sur les noms des parents, donc des époux, ex-époux dans ce cas-ci. On va-tu en entendre encore parler parce que ça risque de faire un peu du bruit, là, ce genre de cause-là? Là.
Bien, définitivement, surtout que là, on voit que Mona a déposé une demande à la cour d'appel. On va voir qu'est-ce que ça va donner là, dans les prochains temps.
Et on dit qu'il y a plusieurs victimes collatérales dans cette affaire-là, notamment des enfants. Ça arrive-tu souvent que dans des litiges de ce type-là, des enfants en prennent lourd?
Ah oui, ça arrive vraiment régulièrement là, où les enfants vont être instrumentalisés puis où les parents vont perdre de vue le meilleur intérêt de leur enfant puis ils vont se lancer dans une guerre contre l'autre parent. Là. Ça arrive trop souvent, malheureusement.
Peut-être essayer de les manipuler même des fois. Là. On peut-tu voir ça un peu?
Oui, oui, on peut voir ça, effectivement, ça arrive.
L'aliénation parentale. On vous sort du dossier pour faire ce commentaire-là, mais tu sais, dans l'article, Mathias, il était écrit... qu'après leur rupture, dans les années 2010, les hostilités ont été lancées tellement que Cédric a mis Mona en filature et c'était le début d'une décennie de litiges au cours de laquelle Cédric va adopter une conduite répréhensible, un comportement blâmable. Et ça, par contre, le juge l'a reconnu. Quand on parle de difficultés pour les enfants, je pense que dans ce genre de situation-là, ça devait être très, très éprouvant. Très éprouvant. Une guerre parentale, quand les enfants sont impliqués au jour le jour, c'est sûr ça laisse des traces. Là.
Ah, c'est sûr et certain, là, surtout quand il y a une relation autant toxique que ça qui s'installe au point de faire suivre son ancien conjoint ou son ancienne femme dans ce cas-ci.
Là. Peut-être qu'à un moment, la personne à se fâche et elle dit là, moi je vais aller récupérer mon dû en dommages et intérêts, par exemple. Puis malheureusement, c'est là où que ça débalance avec ce qui devrait être jugé pour la famille et dans le divorce et la séparation. Merci, Maître Gabrielle Martineau des Hôtels, avocate en droit de la famille et en droit de la jeunesse, d'être passée en studio aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
On est dans, j'allais dire, on en jase le point de max. On revient avec Audrey Pinchot qui se ramène en studio pour l'open mic. Paul Lévesque aussi, spécialiste du comportement humain, sera avec nous. Restez là, Mathias Turcotte et moi-même, Pascal Cévé, on vous accompagne. Le point de max.